La gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne au centre d'un forum de haut niveau tenu à Kinshasa du 21 au 22 mars. Un forum organisé par le Fonds monétaire international et le gouvernement congolais sur lequel nous reviendrons largement dans cette émission. Nous reviendrons également, chers auditeurs, sur la présentation par l'entreprise Airtel cette semaine à Kinshasa d'un nouveau service financier, le Mobile Banking. Comment l'utiliser et quels en sont les avantages? Plus de détails dans ce panorama économique. Panorama économique, votre rendez-vous économique du week-end sur Radio Okapi, est une émission, comme vous le savez, qui fait la rétrospective de l'actualité économique de la semaine. Une actualité commentée et analysée chaque semaine par un invité. Cette semaine, nous en avons deux. Jean-Pierre Mouteba, membre du comité national de l'initiative pour la transparence dans l'industrie extractive, ITIE en sigle. Il est aussi président de la société civile du Katanga. Bonjour Jean-Pierre Mouteba.
Bonjour madame.
L'autre invité, c'est le sénateur Nkongo Boudinanzaou. Il est avocat de formation, il est point focal ITIE au Sénat. Il est donc sénateur et il est président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise. Je vous épargne de la suite. Bonjour honorable.
Bonjour madame.
Agathe Mpona et Dako Tambikila sont à la présentation de ce panorama économique. Chers auditeurs, merci de nous suivre.
Panorama économique, le dossier.
Premier dossier de la semaine, mettre en commun différents savoirs et faire en sorte que l'exploitation des richesses issues des forêts, du pétrole et des mines aboutisse à un plus grand bien-être économique. Tel était l'objectif de la rencontre internationale de deux jours qui s'est tenue à Kinshasa sur la gestion des ressources naturelles en Afrique subsaharienne. Cette rencontre était organisée par le Fonds monétaire international FMI et le gouvernement congolais. Nous en parlions déjà mercredi. Des précisions avec Willy Akonda.
Madame Antoinette Salé, directrice Afrique au Fonds monétaire international, l'a précisé. La gestion dans les pays à faible revenu pose des défis énormes. Des défis liés à la gestion économique, des défis liés aux négociations avec les sociétés internationales exploitant les ressources naturelles et celui lié à la mise en place des capacités institutionnelles adéquates. Matata Mponyo, ministre congolais des Finances, l'a aussi souligné. Ces richesses suscitent bien souvent des convoitises. Elles sont souvent, en Afrique, à l'origine de plusieurs drames. Mais selon lui, il n'y a pas de fatalité et il n'y a aucune corrélation entre les richesses naturelles d'un pays et les désastres y rencontrés. Pendant la première journée, les éminentes personnalités qui ont pris la parole ont plaidé pour plus de transparence dans la gestion de ces ressources et pour de meilleures politiques minières. Elles ont aussi plaidé pour la conversion des actifs du sous-sol en richesses réelles et pour l'épargne par les États des recettes issues de l'exploitation des ressources naturelles.
Merci Willy Akonda. Sénateur Nkongo, nous allons commencer par vous avant d'aller plus loin. Vous étiez participant à ce forum. Quelles ont été vos impressions et surtout quel est l'exposé qui vous a le plus édifié?
Donc, mes impressions, elles sont bonnes, elles sont positives. Pourquoi? Parce que lorsque le Fonds monétaire international, je commence par là, en partenariat avec le gouvernement de la République démocratique du Congo, prend l'initiative d'organiser cette conférence, c'est tout un symbole. Nous sommes un pays qui compte beaucoup de ressources naturelles. Oui. C'est tout à fait naturel que notre pays ait vocation à accueillir une conférence internationale comme celle-là. La oui. question qui me vient à l'esprit, voilà une conférence de plus. Quel est l'impact de cette conférence sur la gouvernance de ressources naturelles dans notre pays?
Parce que les conférences, il y en a eu,
Vous avez raison, madame, les conférences, il y en a eu. Est-ce qu'il est possible de nous arrêter à un moment donné et de nous dire comment est-ce que nous devons modifier notre gouvernance des ressources naturelles pour que justement les objectifs qui sont visés, qui sont quoi? Qui sont la transparence, qui sont l'accroissement des revenus, oui. qui sont l'amélioration des conditions de vie de la population, pour que ces objectifs soient rencontrés. La solution à cela, c'est quoi? C'est l'appropriation par les Congolais des résultats de ce type de conférence pour que nous voyons en termes concrets comment nous modifions notre gestion des ressources naturelles pour que à terme nous bénéficions des effets de cette gouvernance améliorée.
Je me tourne vers vous, Jean-Pierre Mouteba. Vous avez aussi participé à ce forum et vous êtes un observateur de la vie économique sur les gestions naturelles, industrie extractive et tout ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de l'organisation de ce forum?
Je dirais d'emblée que dans notre pays, nous avons l'habitude de conférences, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de conférences, il y a beaucoup d'ateliers qui s'organisent régulièrement. Malheureusement, ces ateliers et conférences ne rapportent pas en termes de changement au niveau des comportements, des attitudes des acteurs pour que le pays puisse finalement mieux avancer. Ici, je veux dire que l'opportunité d'organiser cette conférence en ce moment est réelle, du fait que nous sommes en début d'un nouveau mandat. Et donc, c'est un moment opportun, dans la mesure où les 5 années qui viennent, il faudrait que nous puissions changer la façon de gérer nos ressources, changer dans la mesure où toutes les institutions, le Parlement bientôt va être mis en place, le gouvernement dans quelques semaines. Et donc, c'est le moment où nous devons nous remettre en question par rapport à notre gestion, réfléchir, capitaliser toutes ces conférences, tous ces ateliers.
Tous ces brillants exposés faits par des scientifiques éminents et tout ça.
Ces brillants exposés qui, malheureusement, ont répété des choses connues, des choses que beaucoup de rapports, beaucoup d'audits, beaucoup de conférences ont déjà dites. Donc, en fait, c'est des choses connues et nous devons aujourd'hui nous dire qu'est-ce que nous devons faire par rapport à toutes ces questions.
Oui.
La question de la gestion des ressources, elle est réelle. Elle commence par l'accès aux ressources qui se fait grâce aux contrats.
Oui.
Donc, les contrats, on l'a dit, les contrats sont mal négociés, sont mal signés, les contrats sont en train d'hypothéquer notre avenir et l'avenir de nos enfants. Il y a les capacités institutionnelles, on l'a dit, c'est-à-dire les régies financières qui sont censées recouvrer les recettes, qui sont censées collecter les recettes de l'État dans les secteurs miniers. Soit il y a manque des compétences pointues dans le domaine pour pouvoir trouver là où les entreprises sont en train pratiquement de frauder. Il y a par exemple des questions de loi. Nous avons aujourd'hui le code minier qui existe, qui est déjà un code dont on parle de la 3e génération. Mais malheureusement, sur le plan de son respect par les acteurs, malheureusement les acteurs ne respectent pas. C'est notamment du fait que le code prévoit la manière dont on peut accéder aux ressources, mais l'État continue à signer des conventions. Alors que nous ne sommes plus dans les régimes conventionnels, donc malheureusement nous sommes dans 2 régimes, nous sommes dans le régime du code minier et même dans le régime conventionnel, ce qui est aberrant dans un pays. Donc il y a un certain nombre de questions qui sont liées à des changements de comportement, des attitudes et aussi la façon dont nous devons gérer nos ressources aujourd'hui. Au-delà de toutes les conférences, il y a moyen de capitaliser tout ça pour pouvoir gérer davantage, avec plus de responsabilités,
nos ressources naturelles. Et il n'y a pas de meilleur modèle de gestion de ressources naturelles qu'un modèle basé sur l'équité et la transparence.
Voilà ce que peut finalement retenir la RDC de ce forum de haut niveau. Selon Matata Ponyo, ministre des Finances, lors de la conférence de presse qui clôturait le forum, la RDC retient que la transparence et un bon leadership sont nécessaires en matière de gestion des ressources naturelles. On l'écoute.
Il y a une nécessité d'une transparence. La transparence apporte toujours l'efficience dans la gestion, que ce soit au niveau des multinationales, tout comme au niveau des nations. Ça, c'est très important. Deuxièmement, qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité quand vous avez des ressources naturelles, de quelque abondance que ce soit. Il n'y a pas une relation entre des ressources naturelles et une certaine malédiction. Donc, il faut un bon leadership. Il faut des bonnes politiques macroéconomiques et il faut une bonne répartition des ressources provenant des secteurs et que la croissance soit inclusive.
Honorable Nkongo, vous avez à dire par rapport à ce que vous venez d'écouter ?
Tout à fait, madame, tout à fait. Voilà, on dit que chaque pays se développe à partir de sa dotation naturelle fondamentale. La RDC a cette chance que, en fait, de dotation, elle n'en a pas une, elle en a plusieurs. Et le problème, c'est celui de la gouvernance. comment gérons-nous les dotations que nous avons, les dotations naturelles. Je pense que le moment est venu avec le début du quinquennat du président Joseph Kabila de faire en sorte que cette autre ressource fondamentale qu'est l'homme soit au centre de la gestion de nos ressources naturelles.
C'est ce qui manque selon vous jusque-là.
Je vais d'abord dire que il y a quand même des progrès qui sont faits dans la gouvernance, mais je pense que nous pouvons faire mieux. Ce qui n'est pas suffisant, c'est la volonté politique de faire en sorte que nous ayons une gestion de nos ressources naturelles qui soit efficace, qui soit efficiente et qui bénéficie à l'ensemble du pays, à l'ensemble des populations. Nous ne devons pas désespérer. Pourquoi ? Parce que effectivement, la volonté, même si elle n'est pas suffisante, mais elle est là. Donc, on ne peut pas nier aujourd'hui
que des efforts sont faits,
que des réformes sont engagées. Mais ce qu'il faut, c'est aller au-delà de ces efforts. C'est pour ça que je dis ceci, nous devons nous imposer ce que j'appellerai des contrats d'objectifs et des moyens. Qu'est-ce que nous devons faire? Allez, regardez, nous avons un budget qui tourne autour de 3 milliards de dollars en ressources propres. Nous devrions nous imposer un objectif, notamment celui de dire que 2012, 2013, 2014, nous devons atteindre un budget de, par exemple, 10 milliards en ressources propres. Eh bien, nous nous fixons à partir de ce moment-là, à partir du moment où nous nous sommes assignés l'objectif, nous nous définissons les moyens d'atteindre ces objectifs.
Je me retourne encore vers vous, Monsieur Mouteba. Vous avez travaillé en début de semaine à l'ITIE sur l'harmonisation de la liste des produits miniers marchands à l'exportation. Est-ce que on peut compter ça encore comme l'un des efforts du gouvernement pour améliorer la gouvernance dans le secteur?
Oui, en effet, c'est un effort parce que le code minier a été adopté en 2002.
10 ans maintenant.
10 ans après, on a essayé de réfléchir avec le gouvernement sur la nomenclature des produits marchands à l'exportation. Et nous avons pensé qu'il était important, vous savez, le rapport du Sénat, dont la commission était dirigée par le sénateur Moutamba, avait établi qu'il y avait une fraude généralisée dans les secteurs miniers, notamment. Et cette fraude était aussi due à des différentes listes des produits marchands à l'exportation entre l'OFIDA et d'autres régies financières. Donc, en faisant cela, nous avons pensé qu'il était important de normaliser cette liste, d'une part, d'autre part, de pouvoir à un moment donné prendre des décisions courageuses, notamment aujourd'hui ou demain, arrêter l'exportation des produits des concentrés, parce que vous savez qu'il y a 5 ans, le gouverneur de la province du Katanga avait décidé que l'on n'exportait plus le brut. Cela a eu un effet positif sur l'exportation, d'une part. D'autre part, il faut dire que aujourd'hui, avec l'exportation des concentrés, il y a tous ces produits qui passent, c'est-à-dire il y a les minéraux, parce que nos produits ne sont pas monométalliques. Il y a plusieurs métaux là-dedans qui passent en différentes teneurs
et
qui
ne
sont pas déclarés,
pas.
L'État ne bénéficie pas. D'autre part, il y a ces exportateurs qui, malheureusement, déclarent parfois jusqu'à 70% d'humidité, ce qui fait qu'ils transportent des grandes quantités qui abîment les routes, qui ont des impacts sur le nombre de camions et tout. Et malheureusement, tout ça a des impacts sur l'infrastructure. Donc, il y a énormément de problèmes. Si nous essayons demain, peut-être pas aujourd'hui parce qu'il faut que les entreprises construisent les usines, nous allons leur donner un moratoire. Dès que les entreprises auront construit des usines dans un an éventuellement, nous allons demander à toutes ces entreprises d'élaborer suffisamment les produits miniers pour que ce produit qui sortirait ait une valeur ajoutée maximale et que l'État puisse gagner au maximum sur l'exploitation de nos produits. Ici, on peut prendre un exemple banal. Vous allez en ville ici, vous allez trouver les câbles électriques qui viennent du Sénégal, alors que le Sénégal n'est pas un pays producteur du cuivre. Nous sommes pays producteur du cuivre, mais nous exportons des câbles du Sénégal et d'autres pays. Alors que nous pouvons construire nous-mêmes des usines de production de câbles électriques et d'autres produits finis, ce qui va donner un peu plus de valeur ajoutée à nos produits, ce qui va nous permettre de les vendre sur le marché africain et international à des prix qui rapporteraient beaucoup plus d'avantages au pays. Donc nous pensons que dans les 5 ans qui viennent, on doit prendre des décisions courageuses, on doit amener les entreprises à construire des usines, on doit amener les entreprises avoir des comportements citoyens, c'est-à-dire à payer les taxes telles qu'il faut.
Et entre-temps, il y a des ONG comme Global Witness qui tapent le gouvernement, qui tapent au doigt le gouvernement pour dire qu'il y a de graves violations dans le secteur. La situation est très accablante pour la RDC.
Je dirais que Global, et comme d'ailleurs toutes les ONG, nous disons toujours quand le verre est à moitié plein, pour le gouvernement, pour nous, il est à moitié vide. Il y a certes des avancées que Global accepte comme nous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tous les contrats miniers, pétroliers et autres sont sur site. Aujourd'hui les recettes du secteur minier ou du secteur extractif, pétrole, bois et autres sont publiées trimestriellement. Donc il y a un certain nombre d'avancées qui est vrai.
Mais il y a encore des groupes armés dans les mines, il y a encore beaucoup de problèmes, faut le dire aussi.
Il y a beaucoup d'avancées, mais il y a aussi beaucoup de choses qui doivent encore être faites dans les secteurs des ressources naturelles. Il y a les moratoires qui doivent encore être observés en ce qui concerne la forêt. Il y a du côté des mines, par exemple, on doit faire des appels d'offres pour pouvoir signer des contrats pour des gisements importants ou même pour vendre des actions, parce que c'est des choses encore qui montrent que les efforts doivent continuer à être soutenu pour que le pays soit réellement en mesure d'encadrer les secteurs, pour que les secteurs apportent davantage que ce qu'ils rapportent aujourd'hui.
Sénateur Nkongo Boudina, vous avez quelque chose à dire par rapport à cela?
Absolument, absolument. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat sur le secteur minier. Ceci m'inspire de dire que nous avons un problème, c'est celui de la consommation des produits de notre intelligence. Le rapport de la commission d'enquête du Sénat, c'est le produit de l'intelligence du Sénat, collective du Sénat, à un moment donné. Eh bien, si vous parcourez ce rapport, qu'est-ce que vous constatez? C'est que nous avons fait des recommandations. Je dis nous parce que moi, j'étais membre de cette commission, j'étais le rapporteur de la commission. Nous avons fait des recommandations. Qu'est-ce que nous avons notamment dit? C'est que il faut que nos matières premières subissent une transformation qui leur donne une première plus-value. Parce que lorsque les matières acquièrent cette plus-value, nous pouvons les vendre mieux que nous ne le faisons aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons recommandé également? Nous avons recommandé la modification du code minier. N'est-ce pas? Parce que ce code minier de 2002, c'est un code qui avait été rédigé sous l'impulsion de nos partenaires, qui comporte quelques dispositions qui ne rencontrent pas l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons, et je suis heureux de savoir que le ministre Kabouiloulou a annoncé que effectivement l'entreprise consistant à modifier le code minier est déjà en marche. Nous avons également fait des recommandations en ce qui concerne la fiscalité du secteur minier. Et en l'occurrence, nous avons dit ceci, que lorsqu'une entreprise vient chez nous, une entreprise étrangère, elle acquiert un titre, des droits miniers, et que sans avoir fait quelque exploitation que ce soit dans notre pays, sans avoir donné au droit obtenu quelque plus-value que ce soit, cette entreprise est sur les bourses, les places boursières internationales du monde, négocie ces titres et obtient ce qu'on appelle des plus-values boursières. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne là-dedans? Rien du tout. On nous dit que nous ne pouvons pas taxer cela parce que ce sont des gains qui sont faits à l'étranger. Je termine en disant que moi, je ne désespère pas. Je sais que nous allons y arriver si nous y mettons la volonté.
Un peu de volonté. Voilà. Et dans un tout autre registre, alors, nous parlerons des opérations bancaires à l'aide du téléphone portable pour les abonnés d'Airtel. Ce nouveau service a été présenté cette semaine à Kinshasa au cours d'une manifestation organisée justement par Airtel et par la Banque centrale du Congo.
Le téléphone devient ainsi un porte-monnaie électronique. Par l'utilisation de ces services, la Banque centrale pense multiplier par 10 les taux actuels de bancarisation en RDC. Nous en parlions jeudi dernier dans l'émission des Codes d'économie, dont je vous invite à suivre un extrait.
Ce nouveau service dénommé Airtel Money ou M-Falanga est en fait le mobile banking, un service qu'utilisent déjà beaucoup de pays et qui permet de faire des transactions financières à partir de son téléphone portable. C'est-à-dire que lorsque l'on se fait enregistrer et qu'on installe le menu Airtel Money sur son téléphone, l'utilisateur a la possibilité de transférer, déposer, retirer de l'argent à partir de ce téléphone. Ou encore, toujours avec ce téléphone, il peut acheter des biens dans un supermarché, payer certains services, gérer son compte bancaire, obtenir même un relevé de compte. Pour faire tout cela, il faut juste avoir un téléphone portable, être abonné à Airtel et activer le service Airtel Money et de tenir bien sûr un mot de passe. La carte SIM du téléphone est donc désormais utilisée comme une carte bancaire. Voilà Jean-Pierre Mouteba, vous êtes avec nous dans ce studio pour commenter et analyser l'actualité économique. Vous avez suivi ce dossier, qu'est-ce que vous en dites? Quel est votre commentaire brièvement?
Nous avons, vous savez, dans notre pays, 70% de la population qui vit dans la campagne. Donc à la campagne, dans nos villages. Je me dis, ce système sera plus bénéfique dans les centres urbains, comme ici où nous sommes, mais il sera plus difficile dans mon village à Mombwe. Mombwe, c'est à peu près à 60-65 kilomètres de Kongolo ou Katanga. Il sera difficile que dans mon village, malgré qu'ils ont les téléphones, qu'ils puissent accéder à ce système. Mais c'est vrai qu'aussi, nous avons plusieurs comptes en banque, généralement dans les villes. Nous avons beaucoup de points où nous pouvons soutirer avec nos cartes déjà. Donc c'est déjà assez difficile dans un pays où les revenus moyens est très faible, où les gens ne sont pas payés du tout, où les salaires, comme on le dit dans le monde syndical, salaires impayés depuis des années, ou salaires insuffisants, c'est-à-dire le sida qui a touché le monde du travail. Donc il est difficile que quelqu'un qui n'a pas de quoi vivre, lier les deux bouts du mois,
puisse commencer à mettre de l'argent
dans un compte. Donc je crois que ici ça va pousser le gouvernement. Le gouverneur de la banque a dit ça va permettre aux gens de plus mettre l'argent, mais je crois que ça va pousser le gouverneur de la banque, qui est conseiller du gouvernement en matière financière, de demander au gouvernement de pouvoir, n'est-ce pas, mettre les accords d'Mboudi en application pour que les gens aient plus de moyens, pour que les salaires augmentent et que les gens puissent, en plus de la consommation mensuelle, puissent avoir de quoi mettre dans les banques comme épargne. Parce qu'on ne sait pas épargner quand on ne sait pas lier les deux bouts du monde.
Il faut donc augmenter le pouvoir d'achat des Congolais.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Panorama économique, reportage.
Le reportage de la semaine nous amène à Kinshasa, où il y a eu grogne ce lundi chez Hassan et Frères. Les travailleurs de cette entreprise commerciale privée spécialisée dans le commerce général dénoncent les mauvais traitements dont ils sont victimes de la part de leurs employeurs. Dans un mémorandum envoyé au chef de l'État, ces employés exigent, entre autres, la libération de leurs collègues détenus par la police criminelle. Récit des faits avec Willy Akonda.
Arrestation arbitraire, licenciement abusif, injures faciles, confiscation de salaire, tels sont les mots dénoncés par ces travailleurs. Dans ce communiqué envoyé aux autorités du pays, ils fustigent le comportement indigne dont ils sont victimes, selon leurs propres termes,
de la part des expatriés.
On est maltraité, on est sous-traité, et puis il y a des arrestations arbitraires par la police criminelle. Il y a le règlement d'ordre intérieur, il y a le statut pour toute société. Quand il y a quelque chose qui survient, quel que soit un cas de vol, quel que soit quel cas, n'importe quel cas, on doit interroger ou bien interpeller le travailleur, se défendre. Mais c'est ce qui ne se passe pas ici. Donc on est vraiment sous-estimé, sous-traité à tous les niveaux. On n'a pas de considération humaine.
Autre chose, c'est le flou entretenu quant à ce qui concerne leur vrai employeur. Tout s'est fait chez Hassan et Frères. Mais au moment de la signature du contrat, on les informe qu'ils font partie d'une autre entreprise de sous-traitance appelée Sogefmo. Ainsi, ils touchent un salaire 3 fois moins qu'un vrai employé de Hassan et Frères.
Hassan qui nous paye, Hassan qui recrute, Hassan qui passe l'interview, et c'est après qu'on va nous dire que non, vous avez un nouveau patron qui s'appelle Sogefmo. C'est comme ça que nous avons été versés chez Sogefmo. Tous les problèmes qui surviennent ici, eux, ils ne sont pas là. C'est seulement aujourd'hui que nous les voyons, que nous les connaissons, que ce sont les propriétaires ou les patrons de Sogefmo. C'est seulement aujourd'hui. Et depuis que nous sommes là, vous travaillez du 1er janvier au 31 décembre, sans congé annuel.
Contacté à ces sujets, aucun responsable, ni des Hassan et Frères, ni de Sogefmo n'a voulu s'exprimer à ce sujet.
Voilà, une triste situation que pour un opérateur économique comme Hassan et Frères qui est présent en RDC depuis de longues années. Est-ce que vous avez un commentaire, Jean-Pierre Mouteba?
Merci. Le secteur du travail, c'est un secteur où la loi qui ici, le code du travail n'est pas du tout respecté. Et dans les entreprises, généralement, les entreprises minières, les entreprises forestières, les entreprises de commerce, comme c'est le cas dans les entreprises de télécommunications, qui sont en train d'innover naturellement, mais qui malheureusement payent très mal leur personnel. C'est-à-dire que nous avons deux problèmes. Le problème, c'est la loi n'est pas respectée, mais aussi l'inspection du travail, qui devait faire un travail de surveillance, de suivi, n'est pas suffisamment forte.
Bref, l'État est absent.
L'État est naturellement absent. Les entreprises ne payent pas. Je me rappelle qu'au Katanga, lorsque le gouverneur actuel est passé gouverneur, il avait demandé aux entreprises d'aller jusqu'aux 100 dollars. Les gens ont crié sur tous les toits que c'est pas le travail du gouverneur d'exiger que le salaire aille à 100. Il a fermé des entreprises parce que ces entreprises payaient moins de 100 dollars.
Que dit à ce sujet rapidement le sénateur Nkongo Boudina qui siège, lui, au Parlement?
Qu'est-ce que c'est qu'un contrat de travail? Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est le fait que d'un côté, vous avez une personne physique ou morale qui donne le travail et paye le salaire, et de l'autre côté, une personne physique qui exécute le travail et qui est rémunérée. C'est ça le contrat de travail. Le lien de subordination, qui est le trait essentiel du contrat de travail, existe donc entre cet employeur-là, ainsi identifié, et le travailleur ainsi identifié. Nous avons aujourd'hui un phénomène qui s'appelle l'externalisation des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous avez des entreprises qui se débarrassent de la gestion des ressources humaines pour confier cette tâche à une entreprise tierce. Mais l'externalisation de la gestion dans la gestion des ressources humaines ne doit pas être confondue avec la substitution d'employeurs. C'est sans doute là que nous devons faire attention. Premier point. Deuxième point.
Rapidement, oui.
Rapidement. Deuxième point. Le contrat de travail, il a des autorités dans le pays qui sont chargées de leur surveillance, leur bonne exécution, leur audit. Vous avez l'inspection du travail, vous avez d'abord les syndicats. Monsieur Mouteba dit qu'il est syndicat lui-même et qu'il y a plusieurs syndicats. La question est de savoir est-ce que les syndicats font leur travail. Mais il y aura toujours des problèmes dans les relations entre employeurs et travailleurs. Il y aura toujours des problèmes. C'est aux syndicats qu'il appartient, c'est aux autorités.
Je continue.
C'est aux syndicats qu'il appartient, c'est à l'État qu'il appartient par ses démembrements que sont l'inspection du travail, notamment de faire en sorte que ces choses-là, les risques puissent soient réduits au minimum.
Et c'est sur ces commentaires que prend fin le panorama économique de ce week-end. Merci à nos invités Jean-Pierre Muteba et au sénateur Nkongo Boudina Nzaou d'avoir accepté sans hésiter notre invitation en espérant que cela ne soit pas la dernière fois. Merci à Dako Tambikila de nous avoir accompagnés. Un plus grand merci à vous, nos fidèles auditeurs des programmes économiques de la Radio Okapi. Vos 10 minutes quotidiennes d'économie sur Radio Okapi dans Écho d'économie, c'est du lundi au vendredi à partir de 18h15. Mais d'ici là, chers auditeurs, passez un bon week-end en compagnie des programmes de votre radio.